Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et salut tout le monde! Pour célébrer l'arrivée du printemps, ben, il a neigé cette semaine. Hein? En fait, on a un hiver pas de neige. Peut-être qu'on va avoir un printemps avec de la neige.
Jusqu'à Pâques, il y a toujours de la neige.
On verra bien, monsieur McKenna, mes hommages.
Bonjour, Benoît.
Bon, alors, on revient de deux semaines sur la route. On va essayer de vous résumer ça un peu. On a eu des lancements à gauche et à droite. Hyundai Santa Fe, le nouveau modèle 2024. Je suis allé essayer ça en Colombie-Britannique. On va avoir un petit résumé du modèle aujourd'hui. On a été également essayé le Ranger, le nouveau Ranger 2025, avec un modèle Raptor. Donc, il y a un modèle Raptor qui fait partie maintenant de la série, si on veut, du côté de Ranger. Ça va être au programme. Vous allez nous présenter quoi, vous, M. McKenna?
Ben, écoute, j'ai reconduit, pour le dire comme ça, la Ioniq 6 de Hyundai. Une voiture qui a fait une très bonne première impression l'année dernière. Là, je voulais voir si ça tenait la route, littéralement, chez nous, normalement, dans un essai quotidien, routinier, dans le beau grand Montréal.
Bon, puis on va recevoir en invité quelqu'un que vous avez entendu à l'émission déjà quelques fois, Benoît Laforce, qui est directeur général de Auto Hebdo Média. En fait, il va nous parler que on peut tranquillement commencer à acheter des véhicules à prix un peu plus bas. Oui, monsieur, les inventaires automobiles sont plus élevés. On entend même certains rabais à la radio, à la télé depuis un bout de temps.
Ouais.
Alors, on va en parler avec Benoît Laforce et voir ce qu'il en pense. Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou c'est une tendance qui va perdurer?
C'est une fraction d'un petit pourcentage du prix payé total. J'ai regardé les chiffres aux États-Unis globaux, parce que là-bas, c'est plus facilement accessible. Puis effectivement, il y a une baisse des prix payés. Mais par rapport à il y a un mois ou trois mois, pas par rapport à il y a cinq ans. Donc, on paye encore très, très cher.
C'est ça. Là. Puis je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les prix ne vont pas dramatiquement baisser dans les prochains mois. Mais on va quand même en parler avec Benoît Laforce. Mais évidemment, pour commencer, comme à chaque émission, je vous laisse la parole pour les nouvelles de la semaine.
Ben écoute, merci. Et je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour partir.
Non, ça va bien.
Surtout pour les fans de technologie, en fait, parce qu'on a découvert dans les derniers jours que les constructeurs remettaient effectivement nos données de conduite aux assureurs, sans pas nécessairement nous le dire de façon très claire. On le sait, l'avènement des autos connectées, c'est une grosse affaire, mais c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Ces véhicules-là, on le sait ça aussi, produisent beaucoup de données, des tas de données qui remettent ensuite au constructeur, lequel les revend à des tiers et ça finit dans les mains des firmes d'assurance. Bon, là, évidemment, je vais vous faire une histoire courte parce que, bon, ça peut être compliqué, mais longue histoire courte, effectivement, ça fait essentiellement bondir les primes d'assurance de plusieurs automobilistes qui s'en rendent compte après coup et là qui sont moins contents. Ce sont des données, je regardais, parce que c'est New York Times qui a publié un rapport là-dessus la semaine dernière, et les données collectées sont étonnamment précises. Il y a une firme qui s'appelle LexisNexis qui collecte des données de constructeurs comme General Motors qui porte sur la nature des accélérations, des freinages, des gestes très précis posés quand on est au volant de son véhicule. Et si la firme observe des cas répétés d'accélération brusque, par exemple, ou de freinage abrupt, et que l'assureur en prend connaissance, ben, la prime va être ajustée à la hausse parce qu'on considère que le conducteur est dangereux.
Okay.
Tu sais, des fois, une accélération brusque,
peut-être qu'il fait juste rester à Laval et qu'il y avait des stops dans son coin.
Exactement.
Il n'y a pas de portrait, là. On fait juste imaginer que c'est ça.
C'est pas exactement l'exemple que j'avais en tête, mais c'est exactement, ça illustre très bien la situation, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cas où on accélère. Tu sais, on veut dépasser sur l'autoroute, tout ça. Des fois, il faut accélérer vite, pareil.
Dépassement, ça demande un peu d'énergie.
Ben
effectivement.
Voilà. On le sait, il y a des assureurs qui offrent depuis des années un modèle d'assurance basé sur l'usage qu'on fait de son véhicule. On installe une espèce de bidule connecté à bord.
Oui.
Et notre prime est ajustée en fonction de son type de conduite.
On accepte d'être cobaye et que nos données soient transmises à d'autres.
Exact.
Mais
c'est transparent, on le sait, puis tout est clair. Ce que le New York Times a découvert, c'est que les constructeurs remettent aux assureurs le même genre de données, mais ne le disent pas nécessairement très clairement aux clients. Évidemment, les assureurs sont extrêmement friands de ces statistiques-là parce que ça leur permet d'augmenter leurs primes.
Bien sûr.
Le New York Times cite General Motors, Honda, Kia et Hyundai parmi les marques qui revendent les données de leurs clients aux assureurs, mais qui ne l'indiquent pas vraiment clairement.
En passant, j'ai reçu un mot de GM là-dessus, parce qu'on en avait parlé sur mon site, qui m'ont dit que les données se transmettent aux États-Unis, mais pas au Canada.
Bon, tant mieux pour nous.
Tant mieux pour nous.
Espérons que ça reste comme ça, parce que, évidemment, ce que les constructeurs disent aussi, c'est que les automobilistes consentent à partager leurs données avec les assureurs. Parce qu'eux, ils voient, on a signé le document ici avec les petits caractères, mais il faut vraiment avoir lu les petits caractères au fin fond de l'accord d'utilisation des services connectés.
Il faut lire le tiers de page en bas dans des caractères illisibles. Là, c'est généralement là que se trouvent les bonnes informations.
C'est souvent la chose que personne lit, malheureusement.
Oui, exact.
Et on reste flou. On dit souvent qu'il se peut que vos données soient partagées avec des tiers, mais on ne définit pas vraiment ce que ça veut dire. Ce qu'il faudrait vraiment écrire, c'est qu'il se peut que vos données soient récupérées par votre assureur et qu'il va s'en servir pour hausser votre prime. Ça, ce serait clair.
Ça serait clair. Mais c'est bref, comme quand t'appelles, il se pourrait que votre appel soit enregistré. Il est toujours enregistré,
ouais,
en passant.
C'est ça.
Sachez-le.
C'est un peu l'envers de la médaille des voitures connectées. Et malheureusement, on s'en va tous. En fait, tous les constructeurs s'en vont vers ça. Fait que ça va. Parce que, tu sais, ils parlent beaucoup de l'argent qu'on peut faire à partir des données des
bien
voitures
sûr
connectées. Ben, ça,
bien
c'est une
sûr
façon de faire de l'argent.
C'est une façon assez directe d'en faire, effectivement.
Yes.
Autre nouvelle.
Écoute, je suis dans la mauvaise humeur cette semaine,
non,
les amis.
T'as pas deux mauvaises nouvelles. Bon, il va falloir que je trouve des bonnes nouvelles de mon bord.
Celle-là, elle touche pas grand monde, on va s'entendre, parce que c'est la fin. Là. Ça sent la fin, mettons, pour Fisker, qui s'est placé il y a quelques jours à l'abri de ses créanciers. On va dire ça comme ça, c'est 0-2 pour Fisker, qui a annoncé plus tôt cette semaine là, qu'il cessait la production de l'Océan, son VUS tout électrique, qui était en réalité l'œuvre de l'équipement canadien Magna Automotive, qui est fabriqué en Autriche dans l'usine de Magna Steyr.
Usine de Graz en Autriche.
Bingo. La direction de Fisker a aussi annoncé qu'elle se plaçait sous la protection de la loi contre ses créanciers. Le temps de trouver assez d'argent pour relancer ses activités. Si elle n'y arrive pas, l'entreprise devra déclarer faillite, nécessairement. Pour la deuxième fois en plus de 10 ans, parce que la dernière fois, malheureusement, pour les gens de Fisker, c'était en 2013 que l'entreprise a fait faillite. C'était pas
à
la même stratégie.
L'époque de la Karma.
Qui est une voiture hybride branchable, si je me rappelle bien. Qui
était finie comme une Chevette en dedans.
Ah, puis qui avait l'air faite en 2x4, tellement qu'elle craquait de partout. Non, effectivement.
123 000 $. J'avais eu ça en essai routier. Je m'étais dit, mais qui va acheter ça?
Ouais.
Il y en a quelques-uns qui l'ont fait.
Pas une tonne de gens.
Le style était magnifique. Mais l'intérieur
il faisait tourner les têtes, je veux dire
absolument.
Cela dit, tout n'est pourtant pas si sombre pour Fisker en ce moment. La marque, qui est évidemment présente en Europe, aurait mis déjà 1300 océans à ses clients depuis le début de l'année, et son inventaire situe quelque chose à quelque part entre dans les environs en fait de 4700 exemplaires.
Okay.
Le constructeur avait aussi l'intention de lancer une camionnette électrique qui s'appelait au début l'Alaska et ensuite qui a été renommée Kayak d'ici 2026. Un pick-up qui s'appelle Kayak, tu dis j'espère qu'il flotte.
Ouais, je sais pas.
Il y avait aussi dans les cartons le plan de produire un véhicule familial bon marché qui s'appelait la Pear,
la poire.
Une voiture décapotable, la Ronin. Et tout ça, bon, on s'entend maintenant, c'est sur la glace. Il semble que l'entreprise aurait besoin d'au moins 150 millions de dollars américains très rapidement pour se relancer en dedans de 30 jours. Et on s'entend qu'avec les conditions du marché
ils peuvent appeler Donald
capital,
Trump, il trouve de l'argent facilement, lui.
Il l'a-tu trouvé? Parce que dans la fin, il l'avait pas trouvé encore, nous non plus. Une des raisons pour lesquelles Fisker a arrêté sa production, c'est que l'entreprise n'a pas pu rembourser 8 400 000 $ américains en intérêts qui étaient dus la semaine dernière. Elle demande 30 jours de grâce pour y arriver, élever le reste du capital qui lui permettrait de continuer. Bref, ça regarde pas bien. Écoute, il va peut-être avoir une suite, on ne sait pas. Du côté de Reuters, on dit que Nissan serait déjà en discussion avec Fisker pour utiliser sa plateforme et pourrait peut-être élargir cette conversation. Il va dire, on peut peut-être t'aider puis racheter puis devenir une espèce de fabricant de véhicules.
On est tous en discussion avec Honda.
Hyundai
en fait, c'est que Nissan
est avec Honda.
Oui, c'est ça.
Fisker dans le portrait. On va voir comment ça va débloquer, mais écoute,
on
le dit à chaque fois.
Nissan Honda Fisker.
Ça serait un camion électrique en partant. Mais tu sais, on a vu Tesla apparaître, mais c'est toujours extrêmement difficile de devenir un nouveau constructeur viable dans le monde automobile. Et c'est une autre preuve.
OK. De mon côté, tiens, j'ai un nouveau modèle dont je peux vous parler cette semaine parce qu'on était sous embargo. Imagine, on était au Portugal au mois de février pour BMW, puis un modèle qu'on nous a montré là-bas, mais on a pris nos caméras. On nous a emmenés dans une petite salle, puis il n'était pas question de montrer. En fait, on nous le montrait, mais il ne fallait pas prendre de photos, rien. C'est sur le site annuelauto.ca, si vous voulez. Il y a eu quelques fuites Internet. D'ailleurs, les gens de BMW n'étaient pas du tout contents.
Il y en a de plus en plus des fuites.
Ça, ouais, ça s'appelle le Vision le Neue Klasse X. On a eu le Neue Klasse à Munich l'automne dernier, et qui était une berline. Là, pensez à la prochaine X3. C'est pas compliqué, là. C'est un utilitaire. C'est encore un concept, mais on dit qu'on va commencer à produire à l'usine de BMW en Hongrie en 2025 comme modèle de production. Donc, on n'est pas très loin de la production. D'ailleurs, bon, l'intérieur est toujours un petit peu flyé, puis bon, les roues, tu sais, mais à quelques détails près, là, ça se réorganise, puis ça va faire un véhicule 100% électrique. On dit que c'est une avancée majeure dans le contrôle de la conduite et du châssis parce qu'il y a des super cerveaux intégrés. C'est comme ça qu'on les a nommés.
Pourquoi pas?
On dit que, bon, par exemple, on va avoir des batteries de nouvelle génération qui vont amener plus d'autonomie. On parle de plus de 600 km d'autonomie avec le véhicule, pas en WLTP.
Les vrais kilomètres?
En kilomètres de chez nous.
Wow.
Là. Bon, évidemment, tout est au LED dans le véhicule. Il y a aussi ce qu'on appelle l'interface intuitive BMW Panoramic Vision. On a une espèce d'expérience...
Ça sonne comme un affichage tête haute éclaté.
Oui, ben c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme on l'a de la tête haute devant soi, mm-hmm. c'est comme en périphérie du véhicule. Donc, vous touchez littéralement... Dans les airs,
ça
vous allez avoir des fonctions. Ça s'affiche
wow.
sur le pare-brise. Et les passagers peuvent le voir. Donc, si, je ne sais pas, moi, le passager va avoir une interaction, changer le poste de radio ou baisser la température, ça se fait de cette façon-là. Est-ce qu'on va conserver ça en production?
Ben,
j'ai hâte de voir.
Ça fait des années que BM a cette espèce d'interface aérienne.
Oui, ben,
où
on peut
les
faire
doigts,
des gestes, absolument.
Ça.
Bon, ben là, c'est comme la prochaine étape. Donc, on dit qu'on veut s'assurer de l'efficacité, évidemment, avant de mettre ça sur le marché. on parle d'une empreinte CO2 qui va être encore une fois réduite parce qu'on utilise beaucoup de matériaux à base de plantes, des minéraux. Il n'y a aucun pétrole dans ce véhicule-là. Même les cuirs sont des cuirs qu'on appelle les Verdana, qui sont développés à partir de végétaux. Donc, on a tenté là, de faire de gros efforts pour réduire, on dit, jusqu'à 50 %. Par exemple, on a pris des vieux filets de pêche usagés qui représentent déjà 30 % du modèle pour tenter d'augmenter ça pour aller à 50 % au niveau de la recyclabilité qui est utilisée dans le véhicule. Cela dit, ça paraît très bien. Donc, on travaille là-dessus, mais c'est un des gros modèles sur lequel on va miser mm-hmm. pour la suite des choses du côté de chez BMW. Beaucoup de choses qu'on va voir de ce côté-là. Et tiens, pour changer complètement de registre, les gens qui voudraient acheter un moteur EMI, il va rester une possibilité en 2024. Ça va être le Jeep Wrangler 392 Rubicon. Ça vous tente.
C'est la Final Edition, non?
C'est la Final Edition.
Ça dit ce que ça dit, là.
C'est 3000 exemplaires, 2700 aux États-Unis et 300 au Canada. Au Canada, ça va se vendre 127 215 $ mesdames, messieurs. Alors, votre Jeep, vous allez le payer en titi.
C'est pas le final versement, parce que ça va être plus
non,
tard dans
c'est,
le futur.
Ben, en tout cas, ça, c'est... Oui. On dit que le Wrangler va être... Bon, on le connaît, on l'a eu ici. L'équipement va être spécial. On va avoir... du cuir nappa noir, des sièges performance à 12 réglages électriques, surpiqûre, etc., etc. Donc, ceux que ça intéresse, je vous conseillerais d'appeler un concessionnaire assez rapidement parce qu'il y a de fortes chances que les quelques exemplaires qu'il va y avoir au Canada... Ouais. disparaissent dans le temps de le dire, même si c'est 125 000
$. Un Wrangler est toujours très populaire chez nous.
Ben, c'est des modèles populaires, mm-hmm. et là, on sait qu'il n'y en a plus. Là. C'est le Hurricane, le 6-cylindres en ligne, là, qui est maintenant le gros moteur, si on veut dire comme ça, du côté de chez Stellantis. Donc, avis aux intéressés, ça va partir assez vite. Voilà, ça va terminer notre premier bloc. Nous, on va à la pause et on revient avec Benoît Lafosse.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Bon, pour ceux d'entre vous qui attendaient des bonnes nouvelles dans le milieu automobile, on commence à en avoir. Là. Je veux pas faire... je veux pas vous faire... fonder de faux espoirs, mais on dit que les inventaires automobiles n'ont jamais été aussi élevés, ce qui a commencé à pousser les prix à la baisse. Et c'est qui dit ça? C'est Auto Hebdo qui a fait un sondage à travers, évidemment, son site que vous connaissez tous. Et pour en parler avec nous, bon, on a Benoît Lafosse, qui a déjà été avec nous à l'émission, qui est directeur général des médias. Benoît Lafosse, bonjour.
Bonjour, M. Charrette. Bonjour, M. McKenna.
Salut, Benoît.
Alors, merci d'être là. Parle-nous donc un peu de cette situation-là, parce qu'on sait que les gens sont extrêmement préoccupés depuis pas quelques mois, là, quelques années. Le prix des véhicules a bondi à un point que ça en est rendu presque ridicule. Même chose pour les véhicules d'occasion. Là, est-ce qu'on commence tranquillement à regarnir les cours de concessionnaires? Est-ce qu'on a un inventaire qui permet enfin de pouvoir avoir un peu d'espoir, là?
Bien, en effet, puis j'apprécie d'être un porteur, je dirais, de bonnes nouvelles d'une certaine façon, cette fois-ci, là, à votre émission. Ce qu'on a remarqué réellement, là, c'est qu'il y a eu une grosse reprise, puis quand nous sommes parlé là, à la fin de l'année, avec, on voyait déjà cette reprise-là qui s'était déjà entamée.
Okay.
Donc, quand on regarde sur notre site à l'heure actuelle, là, on a eu une augmentation de 78 % des véhicules au cours de la dernière année, des véhicules neufs. On est à près de, sur le site autohebdo.net, au total, on est à près de 169 000 véhicules affichés.
OK. Et mon Dieu, ouais, c'est beaucoup, ça.
Définitivement, puis ça revient tout près de notre inventaire qu'on avait là, avant la COVID, là, au moment où nous, là, si vous vous rappelez, lors de notre dernier entretien, j'ai parlé qu'on tient un indice, nous autres, qui était pré-pandémie.
Ouais.
Puis on est vraiment en train de revenir dans ces chiffres-là sur le site d'Autohebdo. Mais comme vous avez dit à l'ouverture, c'est pas garanti que tout le monde va être capable de trouver son véhicule demain matin. On a encore certains enjeux de production versus certaines catégories de véhicules.
Bon, donnez-nous quelques exemples concrets. Est-ce qu'on parle d'une baisse de 3 % de 2 % de 5 % Est-ce qu'on est capable de mettre des chiffres là-dessus? Est-ce qu'on peut voir, parce qu'on le sait, là, pendant quelques mois ou même presque un an, les prix d'occasion des modèles qui avaient moins de 3 ans étaient plus élevés qu'un véhicule neuf, là. Ce qui était jamais vu, là.
J'ai des données pour vous. Si on regarde année sur année au niveau du prix des véhicules d'occasion, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se chiffre à moins 2,1% année sur année. Si on se compare avec 2023, en 2022, on était à 11% d'augmentation. Donc, on voit qu'il y a une tendance à la baisse mois sur mois au niveau du véhicule d'occasion. Aussi, on a noté durant le mois de février 35% des inventaires usagés qui ont eu une baisse de prix de la part des marchands qui affichent des véhicules, qui est un peu à l'envers du marché traditionnel, parce qu'on arrive vers le mois de février, on voit les augmentations de prix, on rentre dans le marché printanier, donc on s'en va un peu à contresens à l'heure actuelle.
OK. Là, est-ce qu'on va revoir, parce que bon, pendant des années, on pouvait faire des moyennes assez faciles en disant, bon, ben si vous avez un véhicule neuf, après 3 ans, considérez que vous allez avoir une perte d'à peu près 30-40%. Après 5 ans, vous avez perdu la moitié du prix du véhicule. Mm-hmm. Est-ce qu'on va revenir à des données comme ça ou faut oublier ça, là, si on arrive dans un autre ère automobile?
Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est encore dur à prédire ce qui va se passer. Si on voit les manufacturiers qui continuent à augmenter leur production, puis si on voit l'inventaire de véhicules neufs continuer à augmenter et le support d'incitatif, on se pourrait se trouver dans une situation où on accélère l'écart, si on veut, entre les véhicules. Donc, le 40% que vous parlez pourrait être plus élevé. Si la production diminue, ben, on pourrait se retrouver dans un maintien de prix, dans une position plus favorable. Donc, tout ça va dépendre un peu au rythme de production des inventaires de véhicules neufs de la part des manufacturiers.
OK, parce que là, on le sait en ce moment. Moi, j'ai parlé quand même avec pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, moi, j'attends encore une autre année. Les prix sont trop élevés. Les taux d'intérêt sont élevés. » Là, parce qu'on a, on dit souvent, on a une tempête parfaite, là, mais en ce moment, c'est assez dur à battre comme condition.
En ce moment, ne pas acheter est la meilleure option.
Oui, oui. Ou garder le véhicule qu'on a. Mm-hmm. Est-ce qu'on va atteindre un point à un moment donné pour dire, bon, ben là, si les... Parce que là, on l'a vu, là, tranquillement, on a refait les inventaires du côté des concessionnaires. Là, on commence à voir des rabais à gauche, à droite. Là. J'ai vu du 0 % du côté de chez Nissan. J'ai vu des rabais de 5 000 $ pour les camions RAM. Il y a des programmes qui commencent à réapparaître. Est-ce que si on reste stagnant du côté des consommateurs, qu'on va encore améliorer l'offre? Est-ce qu'on va faire mieux? Qu'est-ce que ça prendrait exactement pour faire pencher la balance du côté des consommateurs?
Je vous dirais, c'est là que le marché est très intéressant à l'heure actuelle avec les données que vous venez de parler, Alain et Benoît. On sort du mois de février avec un mois de février de vente de véhicules neufs nationalement qui est très élevé avec 129 000 véhicules qui ont été vendus au pays.
Okay.
Donc, on est dans un marché qui est très étrange. On a un marché de véhicules neufs qui est à son 15e mois consécutif. Et là, vous me dites que les gens attendent. Donc, c'est là que le marché devient contradictoire et qui devient dur si on avait une boule de cristal de savoir là, que ça nous prendrait de savoir qu'est-ce qui va se passer.
Oui, j'avoue que j'ai vu ces chiffres-là que moi aussi, ça m'a surpris parce que les prix sont extrêmement élevés. Mais on en vend encore plein. Là, j'ai dit, bon, les gens, quoi, ils vident leur REER pour aller s'acheter un auto, ils vendent la maison puis ils décident d'aller vivre dans leur auto.
Ben, il y a certainement des formules de financement. Il y a beaucoup de concessionnaires qui rappellent avant la fin des termes de location ou de financement pour étirer la mensualité et changer le véhicule plus tôt dans son cycle. Donc ça, c'est une façon de payer autant, mais payer plus longtemps.
Je pense aussi, là, la chose qui est intéressante avec ce que vous me dites, M. Charrette, c'est qu'on peut voir seulement les incitatifs revenir. Donc, des fois, on peut avoir un marché de véhicules neufs qui va être très, très fort, mais qui va impacter le marché du véhicule d'occasion, ce qui va causer un ralentissement. Puis de là, où est-ce que si on regarde 35% de baisse de prix sur les véhicules d'occasion sur la plateforme AutoHebdo, ce qu'on pourrait regarder, c'est qu'on a un marché de véhicules neufs qui est en santé, qui est maintenu par ces offres-là. Il y a un marché du véhicule d'occasion qui s'en vient plus difficile, vu avec les taux d'intérêt qui sont élevés. Donc, les détaillants d'occasion n'ont pas les mêmes outils que les manufacturiers là, pour subventionner des taux.
Ah, effectivement. Et là, évidemment, comme on refait les stocks de véhicules neufs, on va par la même occasion refaire les stocks de véhicules d'occasion. On va en avoir plus sur le marché. Donc, la logique dicte que les prix vont être plus abordables?
Bien, définitivement, ce qu'on voit de notre côté au niveau du prix des véhicules neufs, quand on parle des véhicules affichés sur AutoHebdo, ce qui est important, c'est que des véhicules qui sont en inventaire et qui doivent être affichés au prix de détail. Donc, il y a certaines règles pour les manufacturiers qui imposent aux détaillants. On parle d'un prix moyen à l'heure actuelle sur AutoHebdo pour les véhicules neufs de 65 424, qui est en augmentation de 13% vis-à-vis l'année passée. Donc, on voit encore un prix à la hausse, mais c'est là que la mention que vous avez faite, dire hey, on voit des rabais arrivés qui viennent supporter pour rencontrer les mensualités des consommateurs. Donc, c'est vraiment là que le marché est en transition vers un marché beaucoup plus vers les acheteurs, là, ce qui était notre mention justement quand on a lancé cette donnée-là dans le marché.
Là aussi, il faut mentionner que le prix moyen d'un véhicule d'occasion, ça c'est en février, s'établissait à 36 637 $ et ça c'est un recul. Donc ça c'est une bonne nouvelle.
Définitivement, ce qui veut dire qu'on voit les prix qui sont en recul, mais avec les taux plus élevés, il reste que la mensualité reste très 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 élevée. C'est là qu'on devient, vous avez sûrement déjà vu ça avec votre expérience, on a comme un combat entre le neuf et l'occasion, donc quel véhicule qu'on va être capable de sortir. Et je pense qu'on est en train de tomber dans un marché où est-ce que le consommateur va vraiment devoir pencher, puis il va avoir une décision difficile à prendre. Est-ce que je m'en vais prendre le rabais immédiat du véhicule d'occasion qu'il y a 2 ans, ou je vais vers la mensualité du véhicule neuf?
Oui, exactement.
Ah, l'éternelle question, hein, louer ou acheter.
Louer ou acheter, absolument, absolument. Et si on avait, puis je vais te demander, Benoît Laforce, de sortir ta boule de cristal. Là, on a une petite baisse. Si on regardait d'ici à la fin de l'année 2024, comment vous voyez ça dans les prochains mois?
Bon, on parle du véhicule d'occasion, ce qu'on peut s'attendre, il va y avoir un marché printanier, il y a toujours des marchés printaniers, le beau temps va arriver, on a eu un hiver qui était très clément avec, donc on peut s'attendre soit un maintien, une légère hausse. Et quand on parle d'un marché traditionnel, quand les nouveaux modèles commencent à rentrer, on revoit des baisses, c'est ce qu'on a vu l'année passée, des légères baisses mensuelles à chaque mois à partir du mois de septembre, c'est ce qu'on peut s'attendre. Au niveau du véhicule neuf, je pense pas que les prix de détail vont diminuer, mais on pourrait vraiment s'attendre à ce que les manufacturiers vont donner plus de support pour les catégories de véhicules qui sont en grande quantité chez les concessionnaires. Parce que quand on pense à certaines catégories de manufacturiers, les Japonais ont encore c'est des délais d'attente, mais quand on parle aux marques qui sont européennes ou des marques domestiques, on a un parc de véhicules qui est beaucoup plus intéressant pour le consommateur.
Croyez-vous, Benoît Laforce, qu'il va y avoir un certain engouement? Parce que là, on a annoncé, évidemment, dans le budget du Québec, il y a quelques semaines, que les rabais sur les véhicules électriques allaient prendre fin le 1er janvier 2027. Mais on baisse de 7 000 à 4 000 au 1er janvier 2025. Est-ce que, selon vous, les gens vont se presser aux portes pour aller chercher des véhicules électriques pendant qu'il y a encore un bon rabais?
Le sentiment d'urgence a toujours été un sentiment très fort pour les consommateurs. Puis si je regarde notre étude des véhicules électriques qu'on roule à chaque année en cette période-ci, les données de l'année passée, les consommateurs disaient 95% des consommateurs étaient motivés par les statistiques gouvernementaux.
Okay, c'est
et 31% de eux s'attendaient à ce que ça soit entre 4 000 à 6 000 $ et un autre 30% s'attendait à ce que ça soit au-delà de 10 000.
Okay.
Donc, retirer les incitatifs, vous allez créer un sentiment d'urgence. Et on sait qu'en en marketing, le sentiment d'urgence est un outil très puissant.
Ça, c'est clair. Donc, il pourrait y avoir peut-être une montée de au niveau des ventes à cause justement du délai, parce que là, ça a l'air de rien, mais on arrive tranquillement au mois d'avril. Puis on le sait, là, les subventions se donnent lors de l'immatriculation. Là. C'est pas parce que vous appelez le concessionnaire puis vous mettez votre son sur une liste que vous avez le rabais. Là. Mm-hmm. Ça, c'est au moment où vous prenez possession de l'auto et vous l'immatriculez. Là.
Le point important aussi, M. Charest, c'est que les inventaires ont augmenté. Bien entendu, la disponibilité des véhicules qui se catégorisent est là augmentée. Quand on regarde sur le site autohebdo.net, là, ça l'a énormément augmenté versus l'année passée. Donc, il y a des véhicules. Quand on parle d'un parc automobile entre au-dessus de 60 et en bas de 60 000, le 60 000, c'est qualifiant pour l'offre, on a à peu près 50 % des véhicules sur les 3 000 qui sont en-delà du 60 000. Donc, il y a un choix qui est disponible qui pourrait se qualifier immédiatement pour les consommateurs. Est-ce que le choix est très, très évolué, il est plus limité, mais quand même, on a un choix de véhicules présentement qui se qualifierait disponible sur la plateforme autohebdo.net.
Ben Benoît Laforce, merci beaucoup pour votre temps, très apprécié. Et quand il y a d'autres bonnes nouvelles comme ça ou qu'on aime ça, on parle du marché, ça touche tout le monde, tous les acheteurs se sentent concernés. On va vous rappeler puis on en reparlera.
Ben ça me fait plaisir, bonne journée.
Merci. Alors voilà, c'était Benoît Laforce qui est directeur général d'Auto Hebdo Média qui nous parlait justement de la plus grande disponibilité des véhicules neufs et d'occasion qui fait en sorte que les prix vont probablement progressivement, mais diminuer un peu. Ouais. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Avant de procéder à nos essais routiers, on doit vous dire comment nous écouter. On le fait de temps en temps, mais petit rappel d'aller sur le site 98.5fm.ca, section balado. Ça tient la route est là. On clique et voilà, vous avez les plus récentes émissions. On est aussi sur toutes les plateformes possibles de balado existantes. Abonnez-vous, c'est toujours la façon la plus facile. Vous pouvez aller aussi sur annuelauto.ca. On a une mise à jour des émissions à chaque semaine. Mm-hmm. Voilà, c'est fait. Tiens, notre petite chronique écolo-auto. Cette semaine, on vous convie sur à tout savoir sur la nouvelle Tesla Model 3.
Oui.
Que tu as essayé, toi aussi.
En fait, j'ai essayé une Y. J'ai pas essayé la 3.
Ah, la 3. Bon, on parle de la 3.
Ça ressemble beaucoup.
Il y a un lot de changements pour 2024, en plus d'être partiellement redessiné, parce que c'est vrai que quand vous les regardez vite demain, tu dis, ben, c'est pas mal la même affaire. Mais il y a quand même des petites nuances, mais il y a surtout des nouvelles fonctionnalités. Comme ça se fait beaucoup par l'électronique, ben, on les voit pas à l'œil nu. Il y a un meilleur assemblage, dit-on, une structure qui a été retravaillée. On a une mise à jour de l'habitacle. On dit qu'enfin, on a un habitacle digne de ce nom parce que on achetait beaucoup un véhicule qui avait une bonne autonomie, qui était pratique, mais on n'achetait pas un grand confort.
Très dépouillé,
oui. Oui, c'était assez épuré, pour employer un terme poli. Mm-hmm. Alors, on a redessiné les pare-chocs, on a redessiné les feux et les phares. On en a profité aussi pour refaire la structure afin de la rigidifier. Il y a un rehaussement de la qualité de fabrication. Il y a des changements comme l'écran qui mesure 15,4 pouces plutôt que 15 pouces tout court, donc un petit peu plus grand. Des commandes de clignotants qui ont été relocalisées sur le volant. Donc, il y a plein de petits détails qui sont intéressants. Je vais vous diriger vers la chronique. On parle aussi, évidemment, d'une autonomie qui est à 438 km pour le modèle de base. Donc, on va vous envoyer tout ça. Vous allez sur annuelauto.ca. On va rediriger l'article vers nos amis de chez Écolo Auto.
Voilà,
c'est dit. Alain, tu nous présentes quoi cette semaine?
Écoute, j'ai reconduit la Ioniq 6 il y a deux semaines. En fait, j'ai conduit la Ioniq 6 originalement. On était même ensemble.
Oui, au lancement, absolument.
À Vancouver, des conditions qui étaient, à mon avis, pas loin d'être optimales, et sans trop, parce qu'on
n'avait
pas...
Qui étaient assez bonnes, oui.
Ouais, on n'avait pas vraiment se casser la tête avec l'épuisement de la batterie.
C'était un 22 degrés, belle journée de printemps, dans
routes,
des conditions, pas de vent, sur des belles routes.
Exact. C'était pas mal le fun, finalement.
c'était pas mal.
Non, c'est pas vrai. Je voulais, évidemment, parce que, bon, ces conditions-là n'étaient pas les mêmes qu'ici, la tester chez nous, dans des conditions plus normales, la routine quotidienne des routes québécoises.
Exact.
Et un peu comme une boîte de céréales. Je peux vous dire que mon essai, même s'il a une apparence différente, conserve le même bon goût. Parce que c'est une voiture qui est très appréciable, qui est vraiment le fun à conduire, qui est vraiment... Écoute, dès les premiers tours de roue, quand on l'a essayé, on pouvait dire que ça allait être la voiture de l'année passée, et ça a été le cas. Elle n'a pas beaucoup changé, donc elle reste une voiture très, très intéressante. Elle est juste moins nouvelle, parce qu'elle a été lancée l'année dernière. Mais elle a essentiellement, à mon avis, juste une chose en vie. On parlait de la Tesla. La Tesla Model 3, c'est son accès au superchargeur, parce que Tesla a son réseau de bornes qui fait une énorme différence.
Qui fait la grande popularité de la marque, il faut le dire. Là, parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par le réseau de Tesla. Moi, j'ai un ami, je l'ai déjà mentionné, mais qui a un modèle 2017. Il l'a acheté à l'époque où ça coûtait rien pour charger sur le réseau Tesla. Lui, il est mort de rire.
Oui, doublement. Parce que
lui, peu importe où il va, il c'est plug-in, go, puis that's it. Il n'y a pas... c'est comme si le circuit électrique était gratuit.
Bon, on serait tous branchés partout.
Oui, c'est ça.
Ça fait que la Ioniq 6, ça, pas tout à fait ça. Bon, évidemment, elle peut se charger quand même assez vite, mais essentiellement, ça reste un produit Hyundai. Je veux dire ceci, puis ça, ça m'a fait, je ne m'attendais pas à ça. Son design à la Ioniq 6, qui est une berline très arrondie, fait vraiment jaser. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Évidemment, elle a une silhouette très profilée, un toit très recourbé qui réduit à pas grand-chose l'espace à l'arrière là, qui est réservé au coffre. Ça plaît pas à tout le monde. Moi, je pense que c'est un goût qui se développe. On finit par la trouver jolie, peu importe. Il y a aussi, et je veux dire, moi j'aime bien là, cette partie-là de cette voiture-là, c'est que Hyundai utilise un éclairage extérieur à DEL qui a un petit côté rétro. Ça ressemble à des gros blocs qui rappellent un peu les années 90. Puis évidemment, bon, c'est une question de goût, mais je pense qu'on finit par trouver ça joli, même sur au premier coup d'œil, c'est peut-être pas tout à fait aussi séduisant. En ce qui me concerne, la Ioniq 6, je la trouve plus jolie de l'extérieur que les autres berlines électriques de 60 000 $ ou moins. Et si vous faites le bilan, des berlines électriques à 60 000 $ ou moins, il n'y en a pas une tonne. Il y a la Model 3 qui commence à 54, je pense, qui, de toute façon, à ce prix-là, les gens n'achètent généralement pas. Il y a la Polestar 2 qui est à 57 000. Et là, encore une fois, la version la plus attrayante coûte 66, je pense.
Exact.
Bref, la Ioniq 6, elle arrive à s'en tirer à 60 000 $ dans la version la plus équipée. Je pense que c'est déjà un gros atout. Et si vous voulez vraiment qu'on discute d'esthétisme, la partie la plus affreuse de cette auto-là, c'est la clé.
C'est rare qu'on parle jamais de ça,
mais la clé de la Ioniq 6 est...
En fait, c'est comme si elle avait oublié de faire une clé, puis on dit, oh shit, c'est vrai que ça prend une clé. Ouais. Quand prend ça?
J'ai un restant de plastique. Écoute, plastique bon marché, c'est probablement qu'ils se disent, les gens finissent toujours par l'échapper dans de l'eau, je sais pas quoi, donc on va la faire le plus cheap possible, mais bref. Cela dit, la clé n'est pas l'image du reste du véhicule, même en dedans, où la finition est très sobre, mais quand même assez élégante. Hyundai a adopté à fond le design du jour, là, qui consiste à tout regrouper dans des écrans sur le tableau de bord. Dans ce cas-ci, il y en a deux, dont un derrière le volant qui affiche l'information de base durant la conduite. Celui de la console fait 12,3 pouces de diagonale. Il n'est pas aussi gros que celui de la Tesla, n'est-ce pas?
Mais c'est assez gros.
Mais ça fait la job. Son seul défaut, il n'y a pas la version sans fil de CarPlay d'Android Auto intégrée. En tout cas, dans le modèle que j'ai essayé, je pense qu'il l'a en option sur une
version. Il l'a en option, effectivement.
Je ne sais pas, il doit avoir une raison, mais ce n'est pas apparent du point de vue utilisateur pourquoi il faut absolument payer plus cher pour ça.
Non.
Au volant, la visibilité excellente, la conduite très bien. La voiture est quand même assez lourde, la gracieuseté des 77,4 kWh de la batterie qu'on trouve sous l'habitacle. Ce qui agace, ça vient agaçant si on passe souvent par-dessus, par exemple, des dos d'âne. Vous savez, des dos d'âne sont souvent très brefs et très, très élevés, donc ça fait vraiment un bump, un gros coup. Ça paraît moins dans d'autres situations de conduite. Là. Sur l'autoroute, par exemple, on a du couple et de la puissance en masse pour accélérer et dépasser à peu près tout ce qui bouge. C'est étonnamment silencieux. Il y a une espèce de mode réglable où on peut ajuster le niveau d'un volume, d'un bruit généré artificiellement qui donne l'impression qu'on conduit un vaisseau spatial. Vous pouvez tout à fait le désactiver.
J'aime bien le terme vaisseau spatial parce qu'effectivement, ça ressemble à ça. Il y a un côté, Area 51 dans
ça. Ça ressemble à rien. Ça ressemble pas à un moteur ou quoi. C'est juste une espèce de, c'est un bruit qui est plus agaçant qu'autre chose, à mon avis. Bon, question de goût, là, encore.
Oui, moi, je l'ai enlevé.
Exact. C'est la meilleure chose à faire.
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'enlever.
Oui, exact. C'est ça. Sur l'autoroute, la forme arrondie de la voiture l'aide à étirer son autonomie. Sa consommation moyenne était de 21 kWh par 100 km durant mon essai, ce qui est un peu en dessous de la moyenne des voitures électriques comparables et des petits VUS électrique d'entrée de gamme, qui est généralement autour des 22 à 25. Ça m'a donné une autonomie d'environ 350 km sur une charge, bien assez pour faire le trajet Montréal-Sutton aller-retour et même plus, parce que j'ai zigonné une fois rendu sur place. Et c'était une semaine presque d'hiver. Là. Il a neigé il y a deux semaines, puis il faisait à peu près 0 degré.
Il a neigé il y a deux semaines?
Oui, il est tombé 3 cm.
T'étais où?
Mais il faisait comme à peu près zéro. Donc ça. Okay. Hyundai annonce 509 km pour la Ioniq 6 à 4 roues motrices. Moi, je trouve ça un petit peu optimiste. Mais 400 km, ça me semble une bonne cible, là, surtout quand il fait un petit peu plus chaud, peut-être. Là.
Exact.
Côté utilité, ben écoute, il y a un coffre assez spacieux malgré tout. Les bagages de 4 personnes, dans notre cas, ont très bien entré dans le coffre. Cela dit, 4 personnes, c'est pas mal, à mon avis, le nombre maximal de personnes qu'on peut asseoir dans le véhicule.
Oui, la cinquième va être un peu tassée.
Ouais, à 5, là, on avait 3 enfants à l'arrière, puis c'était un peu juste. Là. Cela dit, même à l'avant, je veux dire ceci, les deux baquets, je peux pas dire que j'ai trouvé ça très confortable, autant au volant que côté passager. Là, ça manque d'appui pour le dos, ça manque de réglage pour ajuster vraiment toute la patente comme on souhaite. C'est un peu dommage parce que c'est comme quoi rien n'est parfait dans le monde automobile, n'est-ce pas? Il y a quand même des défauts sur des véhicules comme celui-là. La Ioniq 6, quand même, est peut-être une des 2 ou 3 voitures que j'achèterais si j'avais acheté une auto neuve, peu importe la motorisation. Mais je serais déçu de ne pas en avoir, de pas avoir CarPlay sans fil, donc il faudrait payer un petit peu plus cher. Mais cela dit, on sauve quand même, parce qu'aller-retour dans les cantons de l'Est, c'est au moins 125 $ d'essence qu'on sauve quand on est électrique.
Ouais, ben moi je vais à Offers souvent, là, parce que...
C'est pas loin qu'on a payé une bonne partie du prix d'achat en sauvant. Ça reste toujours le gros
Une voiture qui consomme pas gros, aller en Estrie, moi, ça me coûte entre 40 et 50 $
Exact.
Une voiture un peu plus grosse, effectivement.
C'est un demi-plein si on y va très prudemment.
Oui, effectivement, ça va assez vite. Tiens, pour être dans la thématique, je vais rester chez Hyundai parce que je suis allé en Colombie-Britannique. En fait, c'est drôle parce qu'on était à un endroit qui s'appelle Rockwater Secret Cove.
Ouh!
Ouais, vous n'avez pas entendu parler. Moi non plus, je n'avais pas entendu parler. En fait, c'est pas une île. C'est réclus. C'est un endroit sur le bord de la mer, mais il a quand même fallu y aller en avion ou prendre un traversier. Parce que le chemin qui mène va déboucher dans le coin de Whistler. C'est un chemin forestier. Il y a personne qui fait ça, là.
Ah oui.
Les camions de bois, parce que vous le savez, le célèbre cèdre rouge, mm-hmm, qui est très populaire du côté de la Colombie-Britannique. Donc, on s'est ramassé dans un endroit qui est un endroit qui est un petit hôtel, mais comme là, on met de l'avant le côté aventurier du nouveau Santa Fe, on a dormi dans des tente de luxe. Oh. C'était du glamping, là, okay. Appelons ça comme ça.
Camping de luxe.
Il faisait -2, -3 la nuit. On avait beau avoir, vous avez le chauffage d'appoint, mais tu sais qu'une toile de tente...
C'est du camping d'hiver, c'est le fun.
Oui, mais il a fallu s'habiller, là, parce que... Oui. On a un petit peu gelé, puis c'est, tu sais, le taux d'humidité est à 1843%. C'est pas humide, c'est très humide. Mais cela dit, pour parler un peu du véhicule, on a complètement changé de registre cette année. Puis c'est pas la première fois. Hyundai, quand on veut un peu provoquer le marché, on amène des modèles qui sont physiquement très différents de ce qu'on voit ailleurs. Rappelle-toi, là, il y a eu des Sonata à un moment donné qui est arrivé avec des formes très arrondies, le devant aplati, qui jurait avec les autres modèles de la catégorie. On a fait la même chose avec l'Elantra, on a fait la même chose avec le Tucson. Bon, ben là, on vient de le faire avec le Sonata. Le Sonata, certains disent, il a l'air d'un flex. Je dirais plutôt qu'il a l'air d'un... Oui, Santa Fe. Je dirais plutôt qu'il a l'air d'un Land Rover, un peu.
Oui, il y a un petit côté, effectivement.
Il y a un petit côté très Land Rover. On a ramené 3 banquettes de série.
Ah oui.
On avait 2 banquettes auparavant. Le 3 banquettes, on laissait ça au Palisade. Là, maintenant, on va avoir un moyen avec 3 banquettes et un grand avec 3 banquettes. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va présenter le nouveau Palisade quand il va sortir? Parce que là, quand on a un modèle comme celui-là, qui risque de polariser beaucoup les acheteurs de modèles Hyundai, il va falloir penser à quelque chose pour le Palisade. Sans nous dire quoi, on nous a dit que vous allez voir bientôt.
Il y avait des plans.
Alors, il y avait des plans. On est déjà là-dessus. Son extérieur est comme une boîte. Tu sais, c'est beaucoup plus carré qu'avant. On a même une version XRT. C'est un peu pour ça qu'on faisait du glamping. C'est une version un peu plus aventurier avec des pneus un peu plus robustes, une garde au sol un peu plus élevée. On a même un rail de toit pour installer une tente. Donc, on peut camper littéralement sur le toit du véhicule. Donc, on est allé vraiment chercher une clientèle spécifique. On a même travaillé des détails comme le haillon qui est une taille impressionnante parce qu'on a mis les bras hydrauliques à l'extérieur du véhicule. Donc, on ne bloque pas d'espace de chargement et des petits détails. On a même mis sur le côté une espèce de petite agrappe à côté de la vitre où on peut rentrer la main et monter sur le pneu pour aller sur le toit.
Wow.
Donc, si vous avez des choses que vous mettez là, c'est une façon d'y accéder facilement. Évidemment, la présentation intérieure est aussi très différente. C'est un intérieur qui est plus spacieux. Je le disais tantôt, il y a trois rangées de sièges. Il y a un levier de vitesse à colonne rotative situé sur le volant qui libère la console centrale.
Mm-hmm.
Le Santa Fe offre un plateau de stérilisation. Imaginez-vous
un
là.
Quoi?
Un plateau de stérilisation. Si vous avez à stériliser votre téléphone, vous avez des objets. Je sais pas si c'est une idée qu'ils ont eu pendant la pandémie puis qu'ils ont un petit peu oublié. Mais on avait ça, bon, dans le modèle Calligraphy, le modèle Ultimate, là, qui est le modèle haut de gamme. Écoute, j'ai mis mon téléphone. On va essayer. J'ai mis ça dedans. Puis bon, mon téléphone était stérilisé. Donc, c'est des petits détails qu'on n'avait pas au temps avant. Il y a beaucoup de touches haut de gamme. Colonne de direction à réglage électrique. Les matériaux, évidemment, sont de très belle qualité. Beaucoup d'espace dans la deuxième et la troisième rangée. Vous avez le choix d'une configuration à 6 ou 7 passagers. La configuration Ultimate, le haut de gamme, est un 6 passagers. Donc, c'est 2-2-2. On a des sièges, des baquets ou des banquettes sur la deuxième rangée dans les autres modèles qui font qu'on a un 7 places. Tableau de bord, c'est toujours le même principe. Deux écrans de 12,3 pouces. Un qui sert au groupe de jauge du conducteur. L'autre qui sert d'écran tactile pour l'infodivertissement. Il y a la moitié de l'espace qui est effectivement occupé par des écrans, mais on a eu la bonne idée de laisser des boutons physiques pour des éléments tels que la climatisation, le volume audio, pour une plus grande facilité d'utilisation.
Ben oui.
On est un peu comme habitué de monter le volume d'un radio avec un bouton, puis je trouve ça bien le fun quand on l'a encore dans le modèle. Il y a un double chargeur sans fil, ça c'est intéressant. On peut charger deux téléphones en même temps, mais ça c'est en option. Ça vient avec les modèles plus haut de gamme. Vous avez aussi les ports USB-C et USB-A pour charger les téléphones, exactement, pour faire fonctionner Android et Apple CarPlay. Bon, maintenant, au niveau des configurations, suivez-moi bien parce qu'il y en a pas mal. Vous avez deux moteurs. Le moteur de base est un moteur 1,6 litres hybride. Le moteur haut de gamme est un 2,5 litres turbo.
Wow.
Vous avez 231 chevaux dans le cas du premier moteur et 271 livres-pieds de couple. On ne l'a pas essayé. Il n'était pas au lancement, ce modèle-là. Ce qu'on a essayé, nous, c'est le 2,5 litres qui fait 277 chevaux et un peu plus de 300 livres-pieds de couple. Et là, il va y avoir la version Preferred et Preferred Trend. En fait, qui est le Preferred avec un peu plus d'équipement.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, il y a deux autres versions avec le 2,5 litres. Le XRT, qui est le modèle aventurier, là, dans le style roue différente, jante d'une configuration autre. Le Ultimate Calligraphy, qui lui est le modèle de luxe.
Ouais.
Et il va y avoir un modèle LNH. Donc, National Hockey League, un modèle NHL.
Drôle,
on n'a pas eu de détails. Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il allait avoir l'équipement du modèle Calligraphy, mais avec le moteur hybride. Donc, ça va être comme un tout équipé avec le moteur hybride. On n'a pas annoncé de prix. Le petit moteur. On n'a pas annoncé de prix pour ce modèle-là. En termes de prix, ça commence autour de 40 et quelques mille dollars. On va jusqu'à 55, 60 selon les modèles que vous allez choisir. Ce qui reste, je pense que c'est 55, ce qui reste quand même très correct. Parce que 41 000 $ pour un véhicule de cette taille-là, ça se compare à un Mazda CX-90, mm-hmm. ça se compare à un Kia Sorento, là, c'est les deux que j'ai trouvés le plus proche. Dans le 2,5 litres, on annonce 10,8 litres au 100 km de consommation. Puis on a roulé sur des routes secondaires, là. Puis on n'a pas fait mieux que 12,2. Fait que pensez plus à 12 qu'à 11. Là. Ce qui reste ordinaire, on va voir. On annonce 9,8 pour le 1,6.
Ouais.
Ça, il faudra
ça
être là.
Mieux.
Il faudra l'essayer. Ça reste un gros véhicule qui est assez lourd, mais ça va marcher. parce que le prix est bon, la garantie est bonne, le style est différent. Les gens vont adorer ce modèle-là, puis si vous pensez d'aller en chercher un, il arrive là, littéralement chez les concessionnaires au moment où on se parle, et ça va être extrêmement populaire. Mm-hmm. Je pense que ça va être un achat fort intéressant pour ceux qui visent ce marché-là. Alors voilà, ça résume un peu le modèle. C'est tout pour pour notre émission cette semaine. Oui, merci Alain, merci à Jean-Christophe Ouellet, à Benoît Laforce. Soyez prudents sur la route et on se reparle la semaine prochaine. Salut!
C'est 23.